nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
On passe une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Clément Moutier.
Canal Académie reçoit aujourd'hui Jean-François Prado pour évoquer son ouvrage « Dans les tribunes, éloge du supporter » aux éditions Belles Lettres. Le supporter de football, qui est-il ? Observateur, gouailleur, souvent vulgaire, le supporter est aussi passionné, parfois même amoureux. Il est un maillon essentiel du spectacle qu'est le football. Et Jean-François Prado, dans son ouvrage, s'interroge. Sont-ils ces supporters de pauvres gens qui viennent soulager leur misère sociale et leur violence barbare dans les gradins ? Sont-ils des bêtes ? Sont-ils des damnés ? Dans son ouvrage, donc, dans les tribunes éloge du supporter, Jean-François Prado va nous dresser un peu un portrait de ces hommes de l'ombre qu'on ne voit pas souvent sur le terrain. Donc Jean-François Prado est professeur de philosophie ancienne à l'Université de Lyon, spécialiste de philosophie antique et de Platon. Il va décrypter pour nous et pour notre plus grand plaisir ce qu'est et ce que représente celui qu'en Espagne on appelle socios ou en Italie tifosi. Ce qu'est en bref un supporter. Jean-François Prado, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur de philosophie. Et d'où vous est venue cette passion pour le football et quelle passerelle vous avez pu prendre pour allier la philosophie et le foot ?
Le lien entre la philosophie et le foot est parfaitement artificiel. Enfin, ça tient simplement à mon métier. Supporter, on le devient généralement, enfin, c'est le cas le plus fréquent, on le devient à l'adolescence. Lorsqu'on va, c'est un peu ce que je raconte aussi dans l'ouvrage, lorsqu'on va au stade pour la première fois, le plus souvent, on est accompagné par un adulte, un oncle, un père ou un grand frère. Et on devient supporter, je crois, à cet âge-là. Philosophe, ça vient plus tard. Alors après, il y a le moment où, où le professeur de philosophie se pose des questions sur ce qu'il fait, parfois, le samedi soir, le dimanche soir, quand il va au stade. Et ça a donné cet ouvrage.
Et donc, le professeur de philosophie que vous êtes, a-t-il eu aussi des exemples ? Par exemple, Platon aimait-il le sport ? Pratiquait-il... peut-être un sport qui était l'ancêtre du football ?
J'ai beaucoup cherché parce que ça m'aurait passablement arrangé qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. Il y a un jeu avec une forme de balle en tissu que mentionne très très incidemment l'un des dialogues de Platon. Donc je me suis appuyé sur cette citation unique pour essayer de faire à croire que le football existait à l'époque et que Platon le pratiquait. Bon, j'ai pas réussi à persuader grand monde jusqu'à présent. Il y a par ailleurs, et un peu plus sérieusement, il y a évidemment un éloge de ce que les Grecs appellent la gymnastique, c'est-à-dire tout ce qui est l'entretien au gymnase du corps et la pratique sportive, et elle joue un rôle absolument essentiel dans le projet philosophique de Platon. Le corps sain et l'exercice du corps, son soin sont des choses extrêmement importantes pour la philosophie.
Platon voulait chasser les poètes, mais garder
les sportifs, oui, c'est ça. Et peut-être les footballeurs.
Bon, intéressons-nous maintenant pour commencer à ce lieu magique que vous décrivez donc dans votre ouvrage, dont je répète le titre dans les tribunes. Ce lieu magique, c'est le stade de foot, un lieu qui pourrait s'apparenter à une cathédrale bruyante et colorée que vous décrivez presque comme un sanctuaire.
C'est la comparaison qui vient le plus souvent. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a là quelque chose qui est d'ordre rituel, qui se déroule avec une unité de lieu, avec un certain nombre de procédés, de surcroît chantés, avec ce qu'on a repéré souvent comme une dimension sinon sacrée, au moins cultuelle. Donc la comparaison avec l'Église vient le plus fréquemment. Alors j'ai essayé dans ce livre de montrer que c'était l'intérêt du coup de la comparaison avec la Grèce ancienne, que la comparaison catholique-ecclésiale n'était peut-être pas la bonne, parce que le match de foot, plutôt qu'à une messe, s'apparentait à ce que j'ai comparé à des cultes à mystère de l'Antiquité. Donc c'est un sanctuaire, oui, il y a incontestablement quelque chose de sacré, mais sans doute pas une Église.
On reviendra justement à ces cultes à mystère dont vous parlez, Monsieur Prado. Mais tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous décrire d'où vient ce mot « stade » et l'importance qu'il a finalement dans son étymologie ?
Le terme est d'origine grecque, mais le stade, c'est une unité de mesure. C'est simplement la distance que l'on parcourt lorsqu'on fait le tour du stade, lorsque l'athlète qui court fait le tour du stade. Ça désigne, je ne sais plus exactement en termes de mètres, ce que c'est qu'un tour de stade, mais il n'y a pas de signification particulière. Il n'y a pas d'origine grecque. Mais s'il fallait comparer à quelque chose, ce serait plutôt un théâtre.
Mais à l'origine, le stade désignait l'événement sportif en lui-même avant de désigner la structure ?
Non, il désigne vraiment la course et la distance que parcourt l'athlète, et donc par métonymie, l'endroit où vont se dérouler les courses, à la fois à pied, de char, tout ce que vous voulez, et tous les exercices sportifs athlétiques. Donc c'est le lieu du sport.
Et justement, ce lieu du sport aimante le supporter, et le supporter que vous décrivez dans votre ouvrage comme quelqu'un qui est abandonné, qui vit une sorte de dépossession quand il va quitter l'enceinte sportive. Vous pensez donc que le stade, comme ça, délaisse tout d'un coup, fait tomber l'adrénaline du supporter et le rend presque mal, mélancolique ?
Oui, il se passe quelque chose lors du match, lors de cette cérémonie très particulière, qui fait que le stade, ça n'est pas justement simplement l'endroit où se déroule une activité sportive. C'est aussi le théâtre d'une activité donc, qui est particulière, qui a cette dimension à la fois artistique, si vous voulez, sociale, culturelle. Mais le stade, c'est aussi, d'où le titre de mon ouvrage, ce sont aussi les tribunes et ce qui s'y passe pour le supporter. Donc il se passe au moins deux choses dans un stade. Il y a le match de football à proprement parler avec ses 22 acteurs et ses arbitres. Et puis il y a ce qui se passe dans les tribunes qui est assez particulier et qui en effet est un moment de suspension dans la vie sociale des supporters. Il y a avant et après le match et ils ne sont pas dans le même état que pendant.
C'est-à-dire que déjà, on se grime avant de rentrer dans le stade ?
Il y a tout ce rituel du déguisement. On ne va pas vêtu comme on est à la ville, où on a au moins une écharpe parce qu'on est supporter. Et puis, plus dans l'accoutrement, plus on est supporter. On y va en ayant appris un certain nombre de chants, en ayant pris un certain nombre de renseignements aussi, parce que je crois que c'est une expérience, une forme particulière de savoir que d'être supporter. Donc on s'apprête pour une activité qui est très particulière, qui va durer un laps de temps relativement court, 2 heures, qui ne se fait pas dans la tenue ni dans les termes de la vie quotidienne.
Vous dites également qu'on change carrément son langage.
Oui, bah vous disiez tout à l'heure, vous parliez de vulgarité, mais il y a à la fois des chants, il y a toute une rhétorique particulière, de l'apostrophe généralement, quand on salue le talent ou au contraire que l'on conspue la médiocrité des joueurs, du jeu en général. Il y a les chants qui sont spécifiques au club et que le supporter va pouvoir chanter un certain nombre de fois pendant le match, des chants qui peuvent aussi changer selon l'issue du match. Donc il y a tout cet ensemble de choses qui sont dites ou qui sont criées ou qui sont chantées et qui elles aussi sont spécifiques au stade.
Et pour en revenir aux supporters, Monsieur Prado, vous parliez des valeurs qu'ils peuvent avoir. Alors évidemment, l'image qu'on a un peu du supporter, c'est une image triviale. On se dit qu'il ne véhicule pas de valeurs, en tous les cas dans un stade. Mais vous, vous pensez le contraire ?
Oui, je pense le contraire. Enfin, on le dit évidemment avec le sourire parce que ce qu'on entend dans les tribunes, ce n'est pas toujours extrêmement élégant. Mais il y a, dans la manière dont les supporters apprécient le jeu, un ensemble de valeurs qui sont des valeurs morales, qu'on le veuille ou non. Il y a une justice, il y a une élégance, il y a une vertu du joueur et c'est ce que saluent les supporters, parfois dans des termes un peu étranges. Mais de même que à la corrida, les aficionados vont juger moralement et apprécier moralement le courage ou au contraire le côté bouché d'un matador, de la même manière le supporter de foot va apprécier ce qui se passe sur le terrain, en termes moraux.
Est-ce que vous pensez que le football, le sport, qui véhicule certaines valeurs, s'étend aux supporters, ces valeurs-là déteignent sur les supporters, ou pas du tout, il y a une scission entre le terrain et les valeurs qu'il véhicule, et les valeurs des gradins ?
Il y a pas mal de travaux, enfin d'études là-dessus, mais il y a incontestablement des phénomènes de rassemblement communautaire, d'identité, parce que le supporter qui va porter le maillot de son équipe dans les rues de sa ville se signale à ses semblables comme appartenant à une même communauté. Donc ces valeurs-là, d'attachement à un club, à une histoire, avec ce que ça peut avoir de détestable parfois, oui, elles sortent du stade. Après, je ne sais pas si la grandeur morale des tribunes a de l'influence sur la vie quotidienne, je ne sais pas.
Alors en quoi, je parle au professeur de philosophie ancienne, Monsieur Prado, en quoi le parallèle peut être fait avec les jeux qui se trouvaient à l'époque dans les stades grecs ? Est-ce qu'il y a un rapport aujourd'hui avec le football d'aujourd'hui et les supporters ? Avec ce qui se passait, par exemple, aux célébrations des dieux grecs ?
Ce qui est comparable, ce qui m'a intéressé, ce dont je traite dans cet ouvrage, c'est la comparaison avec les cultes à mystère. Les événements proprement sportifs grecs n'ont pas un rapport particulier avec ce qui se passe aujourd'hui dans les stades, si ce n'est qu'il y a du public pour regarder des sportifs. En revanche, là, vous signalez autre chose, ce sont les célébrations religieuses. Pour le coup, les festivals en Grèce ancienne, lors desquels il y a du théâtre. Et là, on entre dans un univers qui est culturel, qui est religieux aussi, qui me semble plus facilement comparable à ce qu'il y a au football. Moi, j'ai relevé la comparaison avec les cultes à mystère parce que les cultes à mystère, à la différence, si vous voulez, de la messe catholique où l'on va en famille, les cultes à mystère, ce sont des cultes auxquels on est initié. Et on est initié par quelqu'un qui peut être un membre de sa propre famille, mais pas nécessairement, et qui va vous conduire dans le lieu du culte à mystère, qui va vous apprendre des chants, des danses, et à la faveur de la pratique de ces chants et de ces danses, donc qui vous désocialise d'une certaine manière, parce que ce n'est pas l'activité quotidienne, vous allez rencontrer des gens qui ne font pas le même métier que vous, quand vous êtes initié en Grèce ancienne, et vous allez chanter et danser, entrer dans une transe qui va vous faire rencontrer les dieux. Cette comparaison-là me semblait intéressante pour le football, parce qu'on est conduit, on est initié au football par quelqu'un qui vous conduit au stade, et si ça vous plaît, vous restez supporter de l'équipe, dont vous allez apprendre l'histoire, dont vous allez apprendre les chants, les danses, etc. Donc la comparaison était à la fois amusante et plus suggestive que d'autres phénomènes religieux catholiques.
Un autre point sur lequel vous insistez, c'est cette certaine forme de sexualité qu'on retrouve dans un stade, alors qu'on aurait plutôt l'image d'un sport viril, avec des coups bas et des crampons hauts, et là quand même vous relevez, par certaines attitudes, que ce soit celles des supporters ou des joueurs, bah presque une sensualité.
Elle me paraît incontestable. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est surexploité aujourd'hui par la publicité, le consumérisme. C'est très, très difficile de ne pas connaître l'anatomie détaillée des joueurs de foot les plus connus parce qu'ils passent leur temps, finalement, en caleçon, sur les terrains y compris. Quand vous pratiquez ce sport et quand vous l'observez au plus haut niveau, c'est vrai que c'est frappant aussi de voir que plus que des coups, il y a énormément de caresses. Enfin, il y a quelque chose qui est un éloge du corps dans l'effort et de l'étreinte qu'on voit dans tous les matchs. Et il y a, alors ça c'est sur le terrain, il y a dans les tribunes énormément de contacts. Ce sont des foules qui sont très denses, où les gens, si vous les regardez, soit sauter, soit faire des vagues, etc., se prennent spontanément par la main, s'embrassent énormément. Ça m'intéressait d'y regarder de près, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du contact, oui, qui est lors du contact affectueux. C'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement que se donner des coups de batte de baseball dans les tribunes des stades. On embrasse son voisin, qu'on ne connaît pas généralement.
Est-ce que vous pensez, Monsieur Prado, que les rapports entre les supporters et les équipes de clubs sont les mêmes que les rapports entre les supporters et les sélections nationales ?
Absolument pas. Supporter d'une équipe nationale, ça n'existe pas. Je crois qu'on est vraiment supporter d'une équipe, qu'on peut très très difficilement être supporter de deux équipes dans son existence. Je pense que quand on renonce, et parfois il faut renoncer, soit parce que l'équipe disparaît de la surface du jeu, enfin, et à ce moment-là, je pense qu'on arrête de supporter, on n'est plus supporter, on ne supporte plus une équipe. Le supporter, par ailleurs, il est, à mon sens, attaché à un club, à l'histoire de ce club. Il va, son identité de supporter se construit dans une fidélité au club, bien plus qu'à une équipe à un moment donné. C'est ce qui distingue le supporter du joueur, c'est que finalement le supporter est bien plus propriétaire, bien plus membre du club que ne sera jamais un joueur, si vous omettez les quelques exceptions de ceux qui, Maldini à Milan, Totti à la Roma, des gens comme ça qui ont passé quasiment toute leur carrière dans un seul et même club. Tout le monde n'est pas Paul Scholes et en règle générale, même à Manchester, le supporter sera plus au fait de l'histoire du club. Donc là, il y a ce lien qui est dissymétrique et qui est intéressant.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque pour les supporters de sélection nationale, surtout lors de grandes compétitions comme l'Euro 2012, justement de laisser déborder un nationalisme qu'on ne verrait pas si on était supporter de club?
Ça ne s'est pas souvent vérifié.
D'où les hooligans en Angleterre, par exemple.
Oui, je pense que ce n'était pas lié au soutien de l'équipe nationale. Eux venaient là pour rencontrer et affronter des bandes, je ne sais pas, d'autres pays qui ont cette tradition-là, les Hollandais notamment, mais je pense que ce n'est pas du tout que le soutien de l'équipe nationale n'implique aucune forme de nationalisme, à mon sens. Les comportements d'adhésion les plus forts, les plus virulents, ce sont là aussi sur des équipes particulières, j'aime rarement nationales.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez qu'on met plus en valeur le rôle des supporters ? On met plus en valeur peut-être aussi par la vidéo, les tribunes, le travail de décoration, d'hymne, de couleur qui est proposé par les supporters ?
Il y a une tentative en ce sens, mais alors elle tient à des effets finalement qui sont commerciaux. Le problème des supporters, c'est qu'il y en a de moins en moins et que la télévision payante, la diffusion des matchs, a vidé une partie des tribunes en Europe. Alors, pas dans tous les pays, mais les mesures de sécurité qui ont été prises qui ont conduit à faire se dérouler les matchs, par exemple en Italie le dimanche à 15h, a évidemment vidé les tribunes au profit de la télévision. Mais comme ça se pratique dans d'autres sports, c'est le cas au rugby, on a essayé d'habiller les tribunes, d'en faire un spectacle pour que ce soit plus intéressant et pour attirer du monde. Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup fonctionné. En France, on est dans une situation moyenne, c'est-à-dire que les stades arrivent à se remplir encore à peu près de la même manière, en dépit des mesures de sécurité.
Et les supporters, aujourd'hui, n'avez-vous pas cette impression qu'ils essayent aussi de se mettre plus en avant ? Par exemple, malheureusement, par des manifestations qui peuvent être désolantes, comme je pense au dernier match du championnat français où on jette divers objets sur la pelouse pour interrompre le match. Ou par exemple, en Italie, à Genoa, où dernièrement aussi, les supporters ont forcé les joueurs et le capitaine Marco Rossi à enlever son maillot parce qu'il n'y faisait plus honneur, parce qu'il perdait trop de matchs d'affilée. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on leur donne finalement plus d'importance qu'ils n'en auraient ?
Ça dépend. Les exemples que vous citez là sont intéressants et puis ça montre justement, même si la manifestation est outrancière, ce que c'est que l'attachement au maillot de la part du supporter a une certaine forme de morale et d'honneur du jeu. De toute façon, on vit dans une époque où les gens n'aiment pas être simplement spectateurs et ils ont envie d'être acteurs de l'événement auquel ils assistent, donc ils seront sans doute contents de pouvoir être vus, de pouvoir agiter des tifos, des drapeaux, etc. Non, je ne suis pas convaincu qu'on leur donne davantage de place, en tout cas pas plus qu'il y a une dizaine d'années, où les supporters, si vous songez à des clubs comme l'Olympique de Marseille, étaient très très présents, jusque dans la gestion du stade. Les événements que vous évoquez là en France sont relativement rares. Il y a bien eu aussi quelques supporters du Stade Rennais pour se désoler bruyamment du niveau de leur équipe et de son incapacité à atteindre les 4 premières places du classement, mais ça ne me semble pas indiquer une tendance particulière.
Bien, je vous remercie Jean-François Prado pour votre éclairage sur ces supporters et puis surtout sur ce sanctuaire qui est le stade de football. Une dernière question quand même sur l'Euro 2012. Est-ce que vous pensez que la France a ses chances cette année ? Est-ce que vous pensez qu'il y a justement que l'engouement décroît ou bien que pour l'instant les Français ne sont pas dedans encore mais que ça va se lancer à partir du 11 juin ?
Ça vient toujours quand ça commence, l'engouement. Là, le spectateur ordinaire a été un peu échaudé par la dernière Coupe du Monde. Mais la France va évidemment gagner tous ses matchs et elle va finir championne d'Europe puisque la France gagne toujours tous ses tournois.
Merci beaucoup Jean-François Prado. Je rappelle que vous étiez ici dans le studio de Canal Academy pour votre ouvrage Dans les tribunes aux éditions des Belles Lettres. Merci et puis à bientôt, peut-être sur un terrain de foot.
Merci.